Salut Daniel et toute l'équipe. C'est René de Montpellier. En cette fin de saison, je voulais vous remercier pour votre action salutaire. Vous souhaitez de bonnes vacances et vous dire que j'espère vous retrouver en septembre pour continuer la lutte. Grosse bise à tous.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe et merci à toutes vos émissions. Je vous souhaite de bonnes vacances. Albert à Marseille. À la rentrée. Ciao.
Oui, bonjour. Je voulais pas laisser finir l'année sans vous dire merci pour toutes les émissions qui nous enrichissent tous les jours un peu plus. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Bonnes vacances à toute l'équipe et vivement la rentrée. Allez, je vous embrasse. C'est Marianne de Lautrec.
Cette émission est merveilleuse. C'est un véritable paratonnerre qui attire toutes les conneries possibles de toute la gauche, et la pseudo-gauche et la gauche caviar. On nous entend de n'importe quoi et tout à la fois. C'est magnifique. On vend les hôtels à Montauban. Et là, actuellement, on fait une visite de Perpignan. Et alors que vous êtes contre, le connard qui fait ça... Son explication parle des communautés différentes. Ah ben, c'est comme ça qu'on fait de l'intégration, en parlant, en présentant. Voici la communauté arménienne, voici la communauté gitane. Et là, tout ça, ça devrait pas exister. Il y a assez de pays ailleurs pour envoyer toutes ces communautés aller se battre. Et naturellement, c'est la faute à la droite. Hein. Si les gens s'assassinent et se tuent entre eux pour on ne sait pas quoi, pour la drogue, pour une fille, pour ceci, pour cela... C'est la faute à la France qui ne soutient pas assez tous ces immigrés, qui ne reçoivent pas assez de comme subventions et qui malheureusement ne peuvent pas, sont obligés de faire la queue pour aller avoir leur chambre au Plaza Athénée, tellement il y en a avant eux. Hein. Mais oui, c'est dur la vie en France, hein. Ben, qui retournent chez eux.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, je voulais juste vous raconter une petite anecdote qui est assez significative de la peur qui règne sur notre pays. Figurez-vous que j'ai la grande chance, on vient de s'acheter une maison dans le nord de l'Alsace. On en a visité pas mal et dans la même gamme de prix, on en a trouvé une dans une petite ville au nord de Strasbourg et qui était d'une qualité nettement supérieure. Une jolie maison pour le même prix que les autres, vraiment super. J'ai donc cherché pourquoi on avait mieux pour le même prix dans cette commune. Pas de centrale nucléaire à proximité, pas de dépôt chimique, pas de risque d'inondation, pas un climat particulièrement hostile non plus. Et renseignement pris, c'est parce que cette ville est réputée pour abriter beaucoup, beaucoup de Turcs. Voilà, je trouve que ça en dit long. Merci. Au revoir.
Bonjour Christophe, bonjour Daniel et bonjour toute l'équipe. J'ai bien aimé la juxtaposition des émissions sur le Venezuela, le Rwanda, Perpignan et puis le procès de Nico Sarko. Parce qu'on y voit des quantités de points communs. En fait, c'est Big Brother en action. Il y a la collusion des médias avec les maîtres de la violence, il y a la collusion des médias avec les maîtres du pouvoir... La propagande sécuritaire au profit toujours des maîtres de l'économie et du monde. Le noyautage médiatique contre les héritiers d'Albert Londres ou bien du Zola de Jacuzze. Et puis surtout, j'ai bien aimé que les humbles, les petits, les sans-grades montrent par leurs paroles que le karcher des merdias n'a pas réussi à éliminer la raison, l'humanité, l'intelligence de leur cerveau. Je vous remercie beaucoup. C'est Gisèle de Ferrières. Merci à l'équipe encore.
Eh ben merci pour vos merci. Et c'est effectivement la dernière de la saison. Et je vais essayer de m'épargner quelque chose. Parce que chaque année, quand je retrouve les copains du petit endroit où je vais en vacances chaque année, ou quand je rencontre des auditeurs en faisant le marché dans ce petit patelin, l'été, tiens, je vous ai écouté cette année. Ah bon, oui, j'ai aimé, comme l'auditrice là qui dit, ah ben ça c'était bien, ou alors ça c'était pas bien. Petite critique, des petits trucs. Mais alors... Il y a un moment que à la fois que j'adore et que je redoute, c'est... Mais alors, qu'est-ce qui devient Jean-Claude ? Et alors, je suis embêté parce que j'ai oublié le Jean-Claude en question. Jean-Claude, c'était un gars qui avait, dans telle ou telle émission, raconté sa vie ou apporté un témoignage où il était impliqué dans une lutte ou une autre. Ou bien me dire, mais et les dames ukrainiennes là qui étaient à côté de Tchernobyl, vous savez ce qu'elles sont devenues? Ou bien, et Larissa, vous vous souvenez de cette... Et alors, je suis là avec mon cabas et je sais pas très bien... Et c'est vrai, je me sens un peu coupable aussi, parce que je devrais savoir ce que sont devenus les témoignages, ceux qui témoignent, ceux qui nous racontent leur vie, ceux qui sont impliqués dans ces reportages. Alors cette année, pour m'éviter quelques cas, on a eu envie, avec l'équipe de la Bassie J'y suis, de savoir ce qu'ils sont devenus, effectivement, dans les reportages au cours de l'année. Un certain nombre de gens nous ont donné leurs témoignages, ont été impliqués dans... Vous allez voir, des situations différentes, et on a eu envie de savoir ce qu'ils sont devenus depuis. Voilà, c'est notre thème pour cette dernière de la saison. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Bassie J'y suis, au 01 56 40 37 37. Le répondeur sera ouvert tout l'été. Vous pourrez nous laisser des messages tout au cours de l'été. On changera les cassettes de temps en temps et ça nous fera un rendez-vous pour la rentrée.
Oui, bonjour Daniel. Voilà, depuis quelque temps, il y a une réflexion qui me reste à l'esprit, ça devient lancinant. Moi, j'ai voté oui pour la Constitution parce que je pensais qu'on pouvait l'améliorer lorsqu'on était rentré dedans. Je n'ai pas du tout voté pour le gouvernement, absolument pas. Au lendemain des élections, bon, j'ai dit, bah, c'est peut-être pas mal, après tout, c'est bien peut-être. Et depuis, qu'est-ce que je vois? Un gouvernement autoritaire, tout à fait le contraire du souhait des personnes qui avaient voté non. Alors je comprends pas pourquoi ce durcissement, pourquoi cette nouvelle politique et cette aphonie des partis qui ont voté non. J'avoue, je comprends pas, je dois être un petit peu simple d'esprit, mais je ne comprends pas. Voilà, Daniel.
Putain, ça va mieux. C'était Rémi dans la Drôme. Ciao.
Certaines personnes bien pensantes, bien votantes, n'ayant jamais de doute, ne supportent plus votre émission. Pour ma part, j'espère que vous resterez longtemps là-bas, car contrairement au premier degré de votre titre, vous êtes notre proximité, la voix la plus proche de ceux qui ne croient pas que tout est déjà joué, réfléchissent et résistent. Avant cette difficile séparation de l'été, je tenais à vous remercier d'exister. Et le jour où vous ne serez plus là-bas, je commencerai vraiment à m'inquiéter pour tous ceux qui sont ici. Merci à tous et bon été.
Bientôt les vacances. Sea, sun and sex. Pourquoi pas? Mais il serait bien aussi de profiter de l'été pour cogiter ces quelques mots de Gramsci en vue d'une rentrée où les raisons de se mobiliser ne manqueront pas. Pour moi, vivre veut dire prendre parti. Celui qui vit vraiment ne peut pas ne pas être citoyen et partisan. L'indifférence est apathie, elle est parasitisme, elle est lâcheté. C'est pourquoi je hais les indifférents. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. Grosse bise à toute l'équipe de la Bassie J'y suis. Daniel.
Salut, c'est Daniel Mermet, la Bassie J'y suis, avec toute la bande, fin et suite.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors j'étais un bébé Nestlé, puisque mon père était un salarié Nestlé, je suis devenu un exploité Nestlé, et aujourd'hui je suis un licencié de chez Nestlé.
Tout le jeu.
Henri Nestlé a fait certaines choses à l'époque, et il avait un esprit, je dirais, qui nous plaisait. Maintenant, Nestlé, le nom Nestlé, pour nous, est synonyme d'empire, est synonyme de couvache, de coup tendu, est synonyme de finance.
Double jeu.
Ben oui, 26 ans de boulot, de remerciements, ben, ils ferment ici, ils vont ouvrir ailleurs. Ça, c'est le remerciement de Nestlé France.
Je t'avais prévenu, Maurice.
On est plus rentable et on nous fout à la poubelle, tout simplement. Voilà.
C'est vrai. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant.
Au bon chocolat au lait suisse.
Voilà, c'était le 6 octobre dernier avec Olivia Gilbert. On était à Saint-Menet, près de Marseille, avec les Nestlé, avec les 427 personnes de Nestlé, salariés de Nestlé, qui étaient menacés du mot le plus employé ces dernières années, mais ces derniers mois encore davantage, le mot délocalisation. On les avait rencontrés, ils nous avaient raconté leur situation, leur lutte, leurs espérances, la muraille d'incompréhension, d'arrogance et de sarcasme à laquelle ils se heurtaient de la part de leur direction, mais aussi de la part des autorités, des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques. On a voulu savoir ce qu'ils sont devenus 8 mois plus tard. On les a appelés ce matin. Patrick Candela, secrétaire CGT de Nestlé Marseille.
Nestlé, c'est fort en chocolat.
Patrick Candela, vous êtes secrétaire de la CGT, salarié surtout depuis plus de 20 ans à l'usine Nestlé de Saint-Menet. Saint-Menet, c'est oui. Le cacao et le café. Et on s'était rencontré début octobre dernier avec la fermeture annoncée de l'usine de Saint-Menet. C'était un gros coup de massue pour vous tous. Qu'est-ce qui se passe depuis? Je crois que Nestlé a décrété l'arrêt total des productions pour le 30 juin, c'est-à-dire hier. C'est quoi ce bruit derrière vous?
Mais ce bruit, c'est tout simplement les salariés de l'usine qui ont décidé aujourd'hui, 1er juillet, de continuer à produire et de faire redémarrer les productions. Là, je suis à l'atelier conditionnement chocolat où l'on plie les tablettes et voilà. On a donc décidé de poursuivre l'activité du site.
La direction est à vos côtés?
La direction n'est évidemment pas à nos côtés. Il faut que vos auditeurs sachent que depuis le 24 juin, au matin, la direction a quitté les lieux de l'usine. Donc nous avons décidé d'occuper l'usine. En plus, comme la procédure légale concernant la fermeture du site et les licenciements n'est toujours pas terminée et que le dossier en justice n'est pas clos lui non plus, il n'y avait aucune raison que nous cessions l'activité du site. La direction voulait nous imposer de manière autoritaire de prendre nos congés payés. Nous avons décidé d'assumer notre contrat de travail en continuant à produire aujourd'hui. Nous en sommes là. Nestlé met un veto à tout repreneur et refuse de discuter de notre projet alternatif de poursuite de l'activité.
Il faut quand même rappeler juste peut-être que Nestlé, c'est une grande multinationale de l'alimentation et aussi de l'eau qui contrôle plus de 8000 marques. Oui. C'est aussi le 27e plus grand groupe, la plus grande entreprise du monde qui gère plus de 274 000 employés dans 83 pays. Quand je vous avais rencontré, vous parliez de vous comme un bébé Nestlé. Est-ce que aujourd'hui le bébé a grandi?
Absolument, le bébé a grandi. Et je crois que beaucoup de salariés qui pendant longtemps ont cru que Nestlé c'était le bon père de famille, se sont largement émancipés de cette tutelle, et la preuve en est aujourd'hui, ils se sont y compris émancipés d'une conception du travail de l'entreprise qui veut que sans le capital, on ne peut pas travailler. Eh bien, absolument pas. En tout cas, on relève ce défi, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, mais en attendant, c'est un message d'espoir, de lutte et de dignité que nous lançons, et nous pensons que c'est de cette manière-là qu'il faut réagir face à la dictature de la première multinationale de l'agroalimentaire, comme vous l'avez expliqué. C'est une multinationale qui réalise 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui fonctionne qu'au service de ses actionnaires.
Donc je suppose que dans les prochaines semaines, vous allez continuer à faire vos dents. C'est quoi un peu le programme maintenant des prochaines semaines, des prochains mois?
Alors, les prochaines semaines et les prochains mois, et très rapidement, c'est d'abord poursuivre notre bataille pour dénoncer les délocalisations et la dictature des multinationales c'est concrètement déjà dans les premières semaines interpeller le gouvernement Villepin qui prétend vouloir régler le problème de l'emploi et notamment les créations d'emplois, alors qu'il est en train de faire la démonstration qu'il n'est même pas en capacité d'empêcher le 427 licenciements directs et 800 suppressions d'emplois induits.
Il y a quel goût pour vous en ce moment le chocolat Nestlé?
C'est du chocolat qui est fait sur ordre de Nestlé uniquement pour les profits des actionnaires. Alors là, il est très amer, il est même immangeable. Et les salariés de l'usine, je me suis mis un peu à l'écart, là, ce sont les salariés de l'usine qui chantent, qui se félicitent d'avoir fait redémarrer les productions et qui tous ensemble, on va continuer. Pour un nouveau monde, peut-être.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissant de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession. Et quand vos fonds seront épuisés, que la grogne sociale se fera entendre, vous n'aurez qu'à demander au gouvernement d'alors quelles mesures il comptera prendre. Libre à vous d'accepter notre plan de reclassement. Vos familles, amis, projets, tout quitter définitivement. Laissez vos terres et vos racines, respirez l'air de nos usines. Si toutefois, vous adoptiez la moindre attitude subversive, vous ne trouveriez à votre état plus aucune alternative. Sachez que notre groupe possède de nombreux médias et qu'il existe des cibles. Veuillez accepter, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir, par notre groupe, vous faire profondément remercier. Notre société doit conserver sa place de leader du marché. Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices.
Bonjour à toute l'équipe. Michelin, vous connaissez? Oui, bien sûr, c'est la société qui remporte la palme d'or de la confiance du grand public. Indice de confiance 75, devant 50 grandes entreprises. Première marque, donc, devant Evian, la Fnac, Peugeot, Decathlon, qui est cinquième avec 69 points. Si vous en voulez un petit peu plus, vous reportez au niveau de Challenge, ce magazine, le numéro 250. Mais dans cette société, je parle de Michelin, mais chez nous, on dit plutôt la maison. Donc, dans la maison, existe aussi un autre palmarès moins connu, mais tout aussi édifiant, c'est celui de l'emploi. En 1982, Michelin France, c'est 53 000 salariés sans les filiales. En 2004, c'est 24 000 salariés. Tout ceci avec 11 plans sociaux et quelques 10 milliards de francs d'aide publique. En un peu plus de 20 ans, Michelin supprime 30 000 emplois en France. C'est sympa. À l'époque, fin des années 70, Michelin était dixième au rang mondial. Maintenant, c'est depuis une dizaine d'années, il est le premier leader en chiffre d'affaires, en vente, ainsi qu'en part de marché. Ça baigne donc dans l'entreprise du CAC qui redistribue le plus fort taux de dividendes par rapport au résultat net, 44% pour une moyenne au CAC de 30%. J'ai dit tout à l'heure, ça baigne, mais ça baigne pas pour tout le monde. Quelques dates qui devraient faire réfléchir ceux qui pensent que le bibendum est un gentil patron. Depuis 1986, c'est la fermeture de l'usine belge, 1000 salariés, ensuite Orléans en 91, dont 600 salariés, ensuite l'usine de Hollande, de Stock & Trent en Angleterre, au Mexique, deux usines en Allemagne, à Trèves, en Italie, en Espagne, fermeture de Volber à Soissons, vous vous souvenez, vente du service informatique à IBM, vente de roues, l'usine de Troyes, Mefro, à un Allemand donc qui achète les roues fabriquées anciennement par Michelin, et puis sur Clermont-Ferrand, 15 000 suppressions d'emplois en une vingtaine d'années. Avec une telle liste non exhaustive, et en voici la preuve, je vous annonce la fermeture de l'usine de Michelin Poitiers, qui employait il y a encore pas si longtemps 900 salariés, qui fabrique du pneu poids lourd. Et si on s'accorde à dire qu'un emploi Michelin, c'est à la louche 3 emplois induits environ, donc je vous laisse prendre vos calculettes et comptez vous-même ce que ça représente sur le bassin d'emploi Poitevin. Vous voyez donc que chez Michelin, il y a pas mal d'impactés également, et cela depuis beaucoup d'années. Donc je m'appelle Eric, je suis de Poitiers, je travaille chez Michelin depuis 32 ans, je fais partie malheureusement des 300 salariés qui doivent être délocalisés vers l'usine de Tours. Tous ces salariés, dont la moyenne d'âge approche les 46 ans, vont devoir vendre leur maison, prendre femmes, enfants, chiens, chats et poissons rouges, sans garantie bien évidemment de retrouver du travail pour l'épouse sur le lieu de migration, ou bien prendre le bus tous les matins pour des gens qui travaillent en 3-8, 100 km aller, 100 km retour. C'est pas mal, ça fait une plage environ de 13 heures par jour, de nuit en plus avec des postes décalés. Voilà ce qui attend les salariés poitevins. Il n'y a pas si longtemps, visite à Clermont-Ferrand, Jean-Pierre Raffarin, un pays bien sûr, puisqu'il habite à 3 km de l'usine de Michelin, disait de Michelin, voici l'exemple type d'une usine qui ne délocalise pas. Eh bien, bonjour. Voilà, salut.
Impacté, c'est le mot qui est apparu dans notre émission, en tout cas, il y a quelques jours, on peut dire, voilà, repris par cet auditeur qui, en 3 minutes 18, sur le répondeur de la base, si j'y suis, raconte ce qui se passe un peu partout, aujourd'hui, de plus en plus, dans notre bel hexagone, et pas seulement, bien sûr, dans notre bel hexagone, mais dans le monde, puisque c'est la mondialisation. On continue les suites des reportages. Que sont-ils devenus depuis qu'on les a rencontrés, depuis qu'ils ont témoigné dans la base, si j'y suis. Le 25 avril dernier, François Ruffin était à Longwy pour rencontrer Kamel Belkadi. Pourquoi ? Parce qu'en janvier 2003, Kamel Belkadi, l'un des salariés les plus revendicatifs de l'usine Daewoo, était accusé du crime d'avoir incendié l'usine Daewoo, dont les salariés étaient remerciés. Ça, voilà pour Kamel. Il y avait quelqu'un d'autre, un certain monsieur Kim Woo-chung, l'ex-PDG du groupe Daewoo, responsable d'une des plus grosses banqueroutes au monde, accusé d'avoir détourné des milliards de dollars, se réfugiait en France. Bon, je rappelle que il avait été naturalisé en 1987 par Philippe Seguin. Monsieur Alain Juppé l'avait fait commandeur de la Légion d'honneur. On va retrouver la responsable CGT de l'Union locale, Isabelle Bani, qui va nous dire ce qu'est devenu Kamel Belkadi. On sait ce qu'est devenu Kim Woo-chung. Il y a quelques jours, le 14 juin, il s'est rendu à la justice coréenne. Mais auparavant, un résumé précis de cette affaire.
La Lorraine se souviendra longtemps de l'échec des Woo. Il y a 13 ans, trois usines devaient permettre la reconversion de centaines de personnes dans cette région sinistrée par la crise de la sidérurgie. Mais Daewoo Électronique a fait faillite et les trois usines viennent de fermer. Notamment celle de Mont-Saint-Martin où 550 salariés fabriquaient des tubes pour téléviseurs. Cet hiver, pendant plusieurs semaines de lutte radicale, les salariés ont occupé leur usine.
Là, on est avec donc Kamel Belkadi devant l'usine Daewoo, avec Isabelle Bani qui était... vous étiez quoi ?
Je suis secrétaire générale de l'Union locale de CGT, mais je suis bénévole.
La tâche que vous voyez partir, c'est là qu'il y avait le feu, qu'on mettait le...
La tâche, vous voyez, il y a une tâche noire, là ?
Voilà.
C'est
les feux de palette.
C'était les feux de palette qu'on était... On restait tous les soirs ici, Noël, Nouvel An, tous les jours, tous les soirs.
Qu'est-ce qu'il y avait dans l'usine à ce moment-là ?
Il y avait les produits qu'on avait fait le jour même et la veille. Pour nous, c'était précieux, c'était un truc qu'on devait garder.
Et ça avait quelle valeur, ces tubes cathodiques ?
Un million d'euros.
Avril 2005.
Voilà, tout à fait. C'était ce qu'on appelle le trésor de guerre des salariés, quoi. Le lendemain de l'incendie, normalement, il y aurait dû avoir donc le chargement de ces tubes cathodiques avec le paiement rubis sur l'ongle pour y compris négocier le plan social. Et je veux dire que c'était quand même quelque chose d'important pour les salariés.
Accident ou acte criminel, pour l'instant, on l'ignore. Un incendie a ravagé hier soir l'usine Dewouf de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. Ce n'est pas n'importe quelle usine. C'est là qu'à l'issue d'un conflit social tendu, les salariés avaient menacé de verser des produits chimiques dans la rivière voisine, Sébastien Baer.
L'incendie a ravagé la moitié de l'entreprise, 6000 mètres carrés dans lesquels étaient entreposés des tubes cathodiques de téléviseurs qui allaient être prochainement expédiés en Pologne. Les bâtiments administratifs de l'usine ont pu être sauvés, mais les dégâts sont importants. En aparté, un pompier de Longwy expliquait que l'origine de l'incendie lui semblait douteuse.
Donc on a dit que toi, Kamel Belkadi, tu avais mis le feu sur un coup de tête, c'est ça?
Il dit je pétine du rite.
Depuis le démarrage de l'enquête, c'est sûr, Kamel, que les flics du SRPJ de Nancy ont ciblé leur truc et ont construit leur scénario, quoi.
Comment vous l'avez ressenti que ça, que c'était autour de Kamel qu'ils avaient...
Depuis le démarrage, parce que si vous voulez, tous les salariés qui ont été entendus, les copains qui étaient dans la lutte avec nous, ils venaient nous dire, mais ils posaient des questions sur Kamel, machin et tout ça. Donc depuis le début de l'enquête, c'est sur Kamel qu'ils avaient mis le doigt pour retrouver le coupable idéal, quoi.
Et pourquoi justement Kamel?
Kamel, parce que ça a été un des plus présents sur le conflit, qui a toujours ouvert sa gueule vis-à-vis des flics. Qui serait été barbu, donc il avait le profil type, quoi. Et puis en plus, maghrébin, en plus, il pratique la religion, donc franchement...
Des maghrébins, honnêtement, dans l'usine, il y en avait quand même un bon nombre.
Oui, c'est clair.
Donc là, aujourd'hui, t'es mal rasé, mais à l'époque, t'étais carrément barbu.
Ouais. À chaque fois que je dois passer un jugement, je dois me raser, parce que j'ai pas une question de dossier.
Isabelle Bagny, vous êtes secrétaire de l'Union locale CGT à Longwy. On s'était rencontrés devant le site de Dewou en compagnie de Kamel Belkadi. Kamel Belkadi qui était accusé d'avoir mis le feu à l'usine Dewou de Longwy, de Mont-Saint-Martin. Il y a eu un jugement qui a été rendu dans ce procès?
Le verdict du jugement de la cour d'appel de Nancy a été rendu donc le 14 juin dernier. Pour l'historique, je rappelle que Kamel avait été condamné en première instance à Briey le 12 octobre 2004 à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme et 30 000 euros de dommages et intérêts. Que cette décision, donc il avait fait appel de cette décision, donc qui est passée devant la cour d'appel le 5 avril dernier. Et il faut savoir que lors du procès en appel du 5 avril dernier, l'avocat général donc avait pas du tout le même ton que ce qui s'était passé à Briey, c'est-à-dire que d'entrée de jeu dans son réquisitoire, il a indiqué que c'était pas le procès des Belkadi, mais c'était bien l'affaire des Houx. En indiquant que tout ce qui s'était passé dans le cadre de Dewou devait venir à décharge dans le dossier de Kamel. Donc l'avocat général, à l'issue de son réquisitoire, a demandé par rapport à Kamel une peine à 36 mois de prison, dont 6 mois ferme.
Voilà. Donc, en première instance, il avait été condamné à 18 mois ferme. Oui. En appel, l'avocat général requiert 6 mois ferme.
Tout à fait.
Et finalement, il obtient quoi?
Et finalement, donc, le verdict de ce jugement en appel, c'est que le tribunal l'a condamné à 24 mois avec sursis et 30 000 euros de dommages et intérêts. Il n'y a pas de prison ferme, mais je veux dire que la famille de Kamel et le nom de Kamel est sali. Et par rapport à ça, Kamel a fait un pourvoi en cassation à l'issue du verdict le 14 juin.
Alors comment vous expliquez que là, il est reconnu coupable par la cour d'avoir mis le feu à une usine, ce qui était un crime qui normalement qui est passible d'années de prison ferme assez conséquente, et que finalement il obtient que du sursis?
Il leur fallait un coupable même au rabais, donc ils n'ont pas voulu déjuger la justice de première instance et ils s'en sortent par une entourloupe, compte tenu qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'élément matériel contre Kamel.
D'accord. Donc là, c'est un jugement qui a été rendu par la cour d'appel de Nancy le 14 juin dernier.
Oui.
Le même jour, dans la presse, il y avait une nouvelle qui apparaissait. C'est que Kim Woo-chung, l'ancien patron de Daewoo, s'est été rendu à la justice coréenne. Donc le patron qui est accusé d'avoir détourné des millions et des milliards de dollars est retourné en Corée et s'est rendu à la justice coréenne.
Dans cette affaire-là, Kim Woo-chung avait 6 autres complices dans le cadre de la faillite du groupe Daewoo. Ils avaient été condamnés en 2001, donc Kim Woo-chung à 2 ans et demi de prison, et certains de ses complices jusqu'à 7 ans de prison. Quelques jours avant que Kim Woo-chung donc revienne au pays, on a appris que 4 de ses complices ont obtenu une grâce présidentielle. Donc, à mon avis, c'est pas pour prendre ses responsabilités qu'il rentre en Corée du Sud, mais c'est bien pour pouvoir échapper à la justice et obtenir une grâce présidentielle. Voilà.
les chantiers navals du Havre de la Ciotat, Adelsofen, Celatex, Michelin, Epeda, Ludanone, Marks & Spencer, les chaussures Bata, Levis, Giat Industries, Airlib, Reims Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique, Avantis, ACT, Matra, Grimaud Logistique, Alstom Saint-Ouen, Béguesset, Péchinet, France Télécom, Orangina, Nos, Testou, Palace Parfum, Métal Europe, Bayer, Arcelor.
Il a refermé la porte, doucement.
Il a refermé la porte, pour pas réveiller maman.
Il a jeté l'humain,
il a jeté l'humain sur le canapé près du chat. Il s'est assis dans un coin, la tête dans ses mains.
50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa gapette? C'est toute sa vie qui était dans sa musette. Toutes ces années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça, ça péter sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, travailleur? C'est toute sa vie qui était dans sa machine.
Elle est plus fort que ça là. Allez, 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 on pousse très très fort là.
Allez, allez, allez.
Que deviennent-ils, que deviennent les luttes, les engagements, les histoires, comme on dit, entre guillemets, qu'on vous a présentées au cours de cette année? On a voulu, pour ce dernier jour, revenir sur un certain nombre de reportages, en appelant ceux qui ont témoigné, ceux qui étaient engagés, ceux qui nous ont parlé, à dire ben, qu'est-ce que vous êtes devenus. Là, c'était un 25-26 novembre dernier, c'était à Saint-Agrève, en Ardèche, une petite maternité, la petite maternité de l'hôpital de Mauzes, pour laquelle les habitants avaient constitué une association de défense et de développement de leur hôpital public. Et c'est une histoire qu'on a retrouvée dans pas mal d'endroits en France. Ça continue évidemment, c'est toute la destruction du domaine public, des biens publics entamés déjà depuis un certain temps, qui se prolonge. Mais des citoyens, des gens s'opposent localement, luttent avec beaucoup de ténacité. Et c'était un auditeur, Alain Payat, qui nous avait appelé pour nous tenir au courant et attirer notre attention sur leur affaire.
Ce qui nous motive dans notre lutte, c'est d'abord l'injustice de fermer une maternité comme celle-là qui fonctionne bien, et aussi les conditions d'éloignement de tout centre de maternité et de tout centre hospitalier. C'est pour ça qu'on a fondé assez rapidement une association de développement et de défense. Alors les deux sont importants, défendre parce que ça c'est immédiat, il faut absolument sauver la maternité et la chirurgie et l'ensemble de l'établissement, mais développer aussi d'autres secteurs au centre hospitalier de Mauzes, parce qu'on se rend bien compte que l'avenir ne peut pas passer simplement que par ce qui existe. Il faut absolument ouvrir des pistes nouvelles pour sauver l'ensemble de la structure dans l'avenir.
Alain Payat, vous êtes un commerçant de Saint-Agrève. Ça n'a pas changé depuis qu'on s'est vu en novembre dernier?
Non, je suis toujours dans le commerce.
Mais... Bon, quand j'étais passé vous voir, tous les habitants de la commune de Saint-Agrève et commencé à se mobiliser très fortement pour défendre leur maternité. Derrière tout ça sous-tendait la question du retrait des services publics et du désengagement de l'État des zones rurales. Alors où est-ce qu'on en est maintenant avec cette maternité depuis novembre dernier? Vous êtes toujours en sursis?
Alors oui, depuis le mois de décembre, il s'est passé quand même pas mal de choses. Bon, on était à cette période-là... en règlement judiciaire, donc on était en attente de jugement, donc on a passé quelques étapes qui nous ont permis de maintenir jusqu'à l'heure actuelle donc les services de chirurgie et de maternité.
La maternité, là, fonctionne toujours.
La maternité fonctionne toujours. Tout est ouvert, tout le monde peut venir accoucher à Saint-Agrève. Si des mamans veulent venir s'inscrire à la maternité, elles seront les bienvenues.
On sait
maintenant,
que
la norme est à 500 accouchements. Nous, on en est à 200, en 2003, notre année de référence, 200 accouchements.
Mais on se souvient qu'à Saint-Agrève, les normes veulent pas dire grand-chose parce que vous avez surtout un problème de climat, enfin de...
Oui, donc par rapport à Saint-Agrève, donc notre hôpital le plus proche est l'hôpital d'Annonay. Par la route, cet hôpital se trouve à 2 heures de route en hiver. Donc il est évident que pour nous, en cas d'urgence, on est dans l'insécurité totale. Donc l'hôpital de Saint-Agrève joue un rôle fondamental dans les urgences, surtout en période d'hiver. On vient de passer un hiver 2005, comme a priori on n'en avait pas passé depuis 30 ans, avec une période d'enneigement de 5 mois, avec des quantités de neige cumulées et qui doivent tourner autour de 4-5 mètres. Donc c'était un hiver redoutable, donc cet hiver réellement, l'hôpital a joué pleinement son rôle en termes de sécurité sanitaire. La population était rassurée. Maintenant, de grosses inquiétudes pèsent sur l'avenir.
Et depuis un an et demi, on a l'impression que vous jouez un peu aussi dans la cour des grands avec ceux qui savent très bien manier la langue de bois. C'était ça un peu depuis un an et demi, un parcours du combattant où vous avez vu des députés, un ministre, des consultants, des auditeurs. Et au bout de tout ça, on a le sentiment à vous entendre que c'est difficile de savoir une fois pour toutes qu'est-ce qu'il en est.
Ah oui, c'est vraiment quelque chose de très criant, quoi. On a l'impression qu'en étant sur un territoire, dès qu'on s'éloigne, c'est-à-dire que la proximité, la région, bien sûr les ministères, alors là c'est complètement déconnecté de la réalité, hein. Quand on entend des gens qui nous disent qu'une période hivernale chez nous dure 2 mois, c'est incroyable, quoi. Quand on voit des hommes, des responsables qui nous disent que finalement il faut pas être inquiet, on va fermer des services de santé et que la population sera plus en sécurité parce qu'on les ferme. Mais c'est une aberration totale, quoi. Ce sont des gens qui gèrent des dossiers de leur bureau. Jamais personne n'est venu en plein hiver par la tempête, escorté par les chasse-neige. Petit à petit, on sent que les services s'en vont, s'effilochent. Alors, il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas de grande prise de position, mais les services disparaissent les uns après les autres, on regroupe, on centralise. Alors ça se fait en douceur, c'est la méthode Sarkozy, c'est la méthode Raffarin, bon a priori ça va être la méthode Villepin. Tout ça, tous ces territoires sont en train de s'effilocher. Exactement, on prend un tricot et puis on tire une maille. Et finalement, on va se retrouver tout nus, les uns et les autres qui vivons sur ces territoires enclavés. Alors jusqu'à quand ça sera acceptable? Moi j'espère que la population va se bouger les fesses pour que ça soit différent. Et c'est à nous de le faire.
Effervescence lycéenne, lycéens enragés, violence lycéenne. Dans les derniers mois, on a, avec Olivia Gesbert, suivi ces mouvements lycéens. Et en mars 2005, on avait rencontré Sabrina. Si vous vous souvenez de cette jeune fille, Sabrina, de Clichy-sous-Bois. Et on a voulu savoir ce qu'elle devenait. Que devient Sabrina?
Oui, bah coucou à toute l'équipe de Mermer, en particulier à Olivia Gesbert. Donc voilà, moi c'est Sabrina du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. Donc en fait, j'étais pas mal investie dans la mobilisation lycéenne contre la réforme Fillon. Donc je vous appelais pour faire un petit point là-dessus. Les lycéens sont, quoi, on a eu une petite victoire puisque le ministre de l'Éducation nationale a sauté. C'est plus Fillon. Simplement, la réforme elle est toujours là. C'est pour ça que j'appelais ça une petite victoire puisque la réforme Fillon elle a pas bougé. Simplement, quoi. De toute façon, si nous la ressortent à la rentrée, bon, je pense que les lycéens sauront quoi faire, puisqu'il n'y aura pas l'échéance du bac, on pourra continuer la lutte jusqu'à entière satisfaction. Maintenant, il y a eu un autre petit problème, c'est que suite à cette mobilisation lycéenne, la répression policière elle a pas mal sévi. Il y a pas mal de lycéens qui risquent, je crois qu'ils sont à peu près 40, pas mal de lycéens donc qui risquent des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à un an ferme. Et de lourdes amendes à payer. C'est un peu difficile pour des lycéens. Donc voilà, il y a un collectif qui a été créé pour venir en aide à ces lycéens. Donc s'il y en a que ça intéresse, des lycéens ou d'autres même, vous pouvez peut-être contacter l'émission et on vous filera les coordonnées pour les soutenir ou même pour avoir quelques infos à propos de cette mobilisation et les suites qu'il va y avoir. Donc voilà, et puis moi en tout cas je passe mon bac cette année, donc à tous ceux qui disaient que parce qu'on avait fait la grève, que c'était pas bien, parce que de toute façon on oubliait le bac, etc., ça veut rien dire. Moi personnellement et d'autres amis à moi, on a fait la grève comme des fous pour lutter contre cette réforme, et puis le bac s'est bien passé, les résultats sont, c'est le 4 juillet, moi je la sens bien personnellement. J'ai été admise en prépa à Montreuil, au lycée Jean Jaurès, donc comme quoi... C'est pas parce qu'on fait la grève qu'après on est foutu scolairement. Faut savoir gérer son temps et essayer de réussir à faire les deux en même temps. Bonnes vacances à tout le monde, à tous les lycéens, et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles luttes. Voilà, gros bisous à toute l'équipe, ciao.
Je suis un arabe non daté, extrait d'une longue poulet grattée, d'un dressage raté. Par les chemins barrés, je traîne les marques typiques des fragments d'Afrique qui ont poussé sur le sol froid des briques, des cris et des griffes périphériques, 30 piges d'absorption toxique, et j'ai le souffle bref d'un vieux poumon sans frère, sans remède à sa fièvre, à l'extrême côté des tripes et des lèvres. Au creux des cages de fer, chaque verrou a son horaire, et l'heure me presse aux pulsions réfractaires les plus sommaires. Dans le Paris des muselières, je marche là arme légère, en pied de biche, en bandoulière. Une effraction intime, un kéfier noué à chaque rime. Je trinque sec à la santé d'une émeute légitime. Et puis un coup aux heures volées au fond du trou, j'apprends à me tenir debout. Sur ce mince fil qui manque de casser d'un coup, sur ce mince fil qui me sépare des fous. Je suis un arabe repris, en sursis m'a-t-on dit, une tige d'ortie promise aux ennuis, et qu'il en soit ainsi.
Inscrivé, greffié, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier, à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa premier.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Je m'appelle Amé, je suis un des membres du groupe de rap La Rumeur. Daniel nous avait consacré un numéro au mois d'octobre 2004. Sur notre actualité, et à la fois discographique et malheureusement judiciaire, puisque nous étions poursuivis par Nicolas Sarkozy lors de son premier mandat à l'intérieur pour diffamation publique envers la police nationale. Le procès a eu lieu, nous l'avons remporté en première instance, donc nous avons été relaxés, tout simplement. C'était sans compter avec... le goût de la surprise et du rebondissement du procureur de la République, puisque ce dernier a fait rapidement appel, et nous sommes repartis pour une année au moins de démêlés judiciaires, de procédures en appel. Le procès qui devrait se tenir à la 11e chambre de la Cour d'appel du tribunal de grande instance de Paris à la fin de l'année 2005, voire au début de l'année 2006. Donc cette actualité-là reste, c'est le cas de le dire, d'actualité. Par ailleurs, depuis cette émission d'octobre 2004, nous avons tourné un petit peu partout en France, plus d'une quarantaine de dates à ce jour. La rumeur continue à se propager, comme on dit, et on remercie l'équipe de là-bas si j'y suis, et du contact qu'on a pu maintenir tout au long de ces mois. Voilà, j'appelais, je sais que c'est que l'émission est la dernière de la saison, donc j'appelais aussi pour de la part du groupe notre sincère amitié à la base si j'y suis, et à l'équipe qui anime cette émission, qui est rare et précieuse, un rare et précieux havre d'information non pollué.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis, c'est Christine de Maubeuge. Je voulais vous dire un grand merci parce que les émissions qui ont été réalisées par l'excellent monsieur François Ruffin en Sambre Avesnois durant la campagne nous ont donné une pêche d'enfer, à tel point que nous continuons le combat. Et oui, les moutons noirs du coin ne rentrent pas à la bergerie. Ils sont 69% à réclamer plus de social, moins de libéral, plus de démocratie. Et au final, ont-ils été entendus? Eh bien, on a eu Villepin, Sarko, Breton et des ordonnances pour nous matraquer durant l'été. Est-ce qu'ils sont sourds? Alors nous allons les réveiller. Qu'on se le dise, vendredi 1er juillet à 18h, place de Wattignies à Maubeuge, les moutons noirs de Sambre-Avesnois vont faire du bruit. Que tous les ovins à toison sombre viennent avec des casseroles, des bidons, des gamelles, le clairon de grand-père, le vieux réveil matin, les grelots du nouvel an, les pétards du 14 juillet, enfin bref, tout ce qui fait du bruit. Et puis, parce que le 1er juillet, c'est la journée internationale de lutte contre la pauvreté, dans le cortège, on leur rappellera aussi les belles promesses du millénaire. L'engagement solennel pris par 191 pays de tout faire pour éradiquer l'extrême pauvreté. 5 ans après, ben, c'est toujours un enfant sur la planète qui meurt toutes les 3 secondes à cause de la pauvreté. Alors, moutons noirs de toutes les prairies du bocage avesnois, unissons-nous en un gros troupeau bruyant vendredi à 18h, place de Wattignies à Maubeuge. Et puis, faites bien de grosses bises à l'excellent monsieur Ruffin. Allez, salut à tous, c'était Christine de Maubeuge. Au revoir.
Sur le terre-plein qui monte vers le Mont-Blanc, un camion qui approche. Un camion italien est bloqué devant la route qui monte au Mont-Blanc. Là, il y a une cohue entre les gendarmes et les manifestants.
On ne bouge pas ! On ne bouge pas ! On ne bouge pas !
Voilà, Christine en pince pour François Ruffin. Et François Ruffin ne bouge pas, il est avec les manifestants qui veulent plus bouger. On est au Fréjus, vous vous souvenez, il y a quelques jours, on s'était préoccupé des camions. Et ça vous a passionné, on pensait pas que ça allait vous passionner à ce point-là, mais c'est un grand sujet. Et puisque voilà, les vacances commencent, on va tous être coincés derrière des camions et on va rouspéter. Alors là, c'est une suite aussi à ce reportage. François Ruffin va faire plaisir à Christine puisqu'il a passé un coup de fil. Il a passé un coup de téléphone pour avoir des informations précises, très très précises.
Psychologie de vente durable, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi.
Bonjour monsieur, je vous passe le service de presse de Madame Moulin.
Je vous remercie.
Bon après-midi, monsieur, au revoir.
Merci, au revoir.
Le ministère de l'écologie et du développement durable s'efforce d'écourter agréablement votre attente.
Oui, Pascal Luciani à l'appareil.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger.
Bonjour, je vous en prie.
Donc je suis François Ruffin, je suis journaliste pour France Inter.
Oui.
Je me suis rendu au Mont Blanc pour faire un certain nombre de reportages sur le trafic routier dans les Alpes.
Oui.
Et donc, suite à ça, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de camions qui passaient par là. Il y en a à peu près 4000, grosso modo.
Oui, tout à fait.
Et les gens sont quand même assez étonnés. Ils disent comment ça se fait qu'il n'y a pas de réaction, pas de soutien de la part de la ministre de l'Environnement, si vous voulez, quoi.
D'accord. D'accord. Oui. Ceci étant, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. D'accord.
Donc, je ne sais pas si c'était pour savoir un peu. Nelly Olin décide d'abattre 6 loups à la place de 4 dans les Alpes, mais finalement, leur région est plus menacée
par 50 loups. Alors, sur ce sujet, les transports sont une priorité de Nelly Olin. C'est un problème global de transport des marchandises avec une part du transport ferroviaire et maritime qui est encore insuffisante.
Et alors, comment faire pour que cette part du transport devienne plus importante? Est-ce que c'est dans les projets de Madame Olin?
L'un des objectifs est de voir et de permettre de contribuer à ce que des projets de transport alternatifs aux routiers voient le jour.
Enfin, si vous voyez, il y a eu un certain nombre de promesses sur le ferroutage. Là, j'en ai une sous les yeux, c'est en 99, Jacques Chirac qui disait la vraie solution au problème, donc au problème du tunnel du Mont-Blanc, c'est le développement le plus rapide du ferroutage. Donc ça, c'est en 99.
Oui.
À l'époque, il y avait 22% du trafic, c'est les statistiques SNCF qui étaient effectuées par ferroutage. Et aujourd'hui, on est passé à 17%. Donc, il y a eu un recul. Il y a eu un chercheur qui a calculé que ça correspondait à peu près à 1 à 2 millions de camions supplémentaires sur les routes. Oui. Donc, plutôt que, on parle du développement du rail, mais à la place, ça recule plus que ça ne progresse, quoi.
Oui. Tout à fait. Le diagnostic, lui, il reste d'actualité. Par conséquent, l'objectif est effectivement d'aller au-delà des mots.
D'accord. Parce que là, du côté de la SNCF, sur les 4 premiers mois de cette année, on m'a annoncé 13% de recul par rapport aux 4 premiers mois de l'an dernier, alors que dans le même temps, le trafic routier augmente. Donc, on est quand même beaucoup plus sur le recul du trafic ferroviaire que sur la reconquête, parce que ça aurait des avantages écologiques.
Absolument. Il y a une tendance à inverser. Et voilà, tout à fait. Là encore, malheureusement, je dirais votre diagnostic est exact, c'est-à-dire que depuis un certain temps, on parle beaucoup du ferroutage et on ne met pas assez l'accent sur la réalisation de projets concrets et les parts de marché. Je pense qu'en valeur absolue, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense qu'en valeur absolue, il n'y a pas.
On a compris. On n'a pas le cul sorti des ronces. Voilà pourquoi on continuera probablement. Le 5 septembre, là-bas, si j'y suis, continuera. Merci à tous. Merci à Olivia Gesbert, à François Ruffin, aux habitants de Longwy, de Maubeuge et de Chamonix. Merci à tous pour les vacances du 6 au 8 juillet anti-G8 en Écosse à Gleneagles. Les renseignements sur le site www.agirici.org. D'autres informations sont disponibles sur le site France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Christophe Papon. L'équipe de là-bas, si j'y suis, c'est Antoine Chaot, Yann Chouquet, Pascal Pascariello, Christophe Imbert, Raphaël Moutarde, Guive Anquetil. Le répondeur, qui, je le rappelle, restera en fonctionnement ouvert tout l'été, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, le courriel, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. je dis courriel parce que régulièrement il y a des auditeurs qui demandent à ce qu'on dise courriel, alors voilà, je dirais du coup courriel désormais. On se retrouve donc en principe le 5 septembre prochain. Dans quelques poignées de secondes, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Un bel été à tous. À partir de lundi, vous retrouverez Sophie Loubière à 17h pour son dernier parking avant la plage. Bonne chance à tous. Bel été. Salut.